Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Bertrand Pouvier. Vous êtes le président, nouveau président de la commission syndicale de la Grande Brière Motière. On va parler de ce sujet, on va aussi parler de votre engagement sur la presqu'île guérandaise et dans notre région de manière générale en faveur des produits locaux, de la restauration et tout ce qui a été mis en œuvre depuis plusieurs mois parce que ça a beaucoup bougé. Alors, bonjour Bertrand Pouvier. Qu'est-ce que cela signifie, la commission syndicale de la Grande Brière Motière? Pour nous expliquer ça, on va être obligé de faire un peu d'histoire et remonter jusqu'au roi de France.
Exactement. En fait, la commission syndicale de la Grande Brière Motière est l'héritière d'une lettre patente qui date de 1461, par laquelle François II, qui était le père d'Anne de Bretagne, a donné en fait un droit de jouissance aux Briérons. Plus exactement, aux habitants des 14 paroisses qui formaient la Brière à l'époque. Louis XVI reconnaîtra ce droit de jouissance et le transformera en droit indivis en 1784. Et en fait, avec l'apparition des départements puis des communes, les 14 paroisses deviendront les 21 communes. C'est pour ça qu'on va trouver par exemple la Turballe, qui était une frérie de Guérande. Donc la Turballe est membre de la commission syndicale de la Grande Brière Motière. En 1838, on se dote de statut et on prend l'appellation de commission syndicale de la Grande Brière Motière. Et c'était notamment pour l'exploitation de la tourbe et du roseau à l'époque. On connaît l'exode Briéron dans les années 30-50, puisque c'est l'apparition des chantiers de l'Atlantique, ce qui deviendra aussi les chantiers de l'aéronautique avec ce qui est devenu Airbus aujourd'hui. Et c'est le marais indivis. Aujourd'hui, c'est 7000 hectares de marais. C'est 280 km de canaux qui sont administrés par la commission syndicale. La commission syndicale, c'est 21 représentants qui sont les 21 syndics des 21 communes, donc qui représentent les 200 000 habitants. C'est-à-dire que vous, qui habitez la Baule, eh bien, vous êtes un propriétaire indivis de la Grande Brière Motière.
Droit de jouissance, qu'est-ce que cela signifie ?
Ben, ça voulait dire à l'époque...
La différence avec le droit de propriété, avec le droit d'usage, il y a plein de notions qui peuvent
Le droit de jouissance, ça voulait dire à l'époque qu'on avait reconnu aux habitants de la Brière le fait de pouvoir extraire la tourbe qui servait à se chauffer, chasser, pêcher, et qu'on ne devait payer aucune redevance à un seigneur ou au clergé.
Ou à l'État, donc, maintenant. Finalement, à l'État, maintenant. Quand vous dites les habitants de la Brière, c'est toutes les communes. Donc
les habitants des 21 communes.
Il y a la Baule, c'est ça ?
Eh bien, on va trouver...
Il y a Guérande, évidemment. Est-ce qu'il y a Pornichet ?
Et on a Pornichet. On a également, si on les cite toutes pour ne vexer personne, on va trouver les... En fait, il y a 12 communes qui sont sur la Carène, 5 communes sur Cap-Atlantique, 2 communes sur la communauté de communes d'Estuaire et Sillon et 4 communes sur la communauté de Pontchâteau-Saint-Gilda. Dans l'ordre, on va trouver Béné, Crossac, Pontchâteau, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachin, La Turballe, La Chapelle-des-Marais, La Baule-Escoublac, Pornichet, Missillac, Sainte-Reine-de-Bretagne, Guérande, Saint-Liphard, Herbignac, et on va trouver également Donge, Saint-Nazaire, Trignac, Prinquiau, La Chapelle-Launay, Saint-Malo-de-Guersac et Montoire-de-Bretagne.
Donc si j'habite à La Baule ou à Saint-Nazaire, je peux aller ramasser de la tourbe en Brière.
Exactement, vous pouvez. Et puis, ce qu'on ne sait pas, vous pouvez aussi aller couper du bois. Puisqu'on a un bois de 70 hectares, vous pouvez aller couper du bois selon un plan de coupe qu'on aura défini avec la commission syndicale. Et vous ne paierez en fait qu'une petite partie pour récupérer le bois.
Bertrand Pouvier, le président de la commission syndicale, la Grande Brière Motière. La commission syndicale, on comprend ce que cela signifie. Quels sont les sujets sur lesquels vous êtes amené à travailler ?
Eh bien, en fait, la commission est organisée en plusieurs groupes de travail. On a, le premier groupe, c'est l'élevage. C'est d'ailleurs Dominique Aumont, qui est élu de Béné, qui préside cette commission. Ça va être la mise en pâturage d'environ 1000 à 1100 animaux qui sont mis en pâturage entre le mois de mai et le mois de décembre. L'élevage, on a la chasse également, c'est environ 700 permis de chasse qui sont délivrés, des permis de brière pour chasser en brière. On a aussi la pêche avec 5 à 600 pêcheurs. Le tourisme qui est très florissant avec une dizaine de promeneurs en chaland. La commission tourisme qui est présidée par Gwenaël Morvan, élu de Guérande. C'est aussi les promeneurs en calèche. La pêche, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Dominique Papin qui est le syndic de Saint-Malo de Guersac. Et la chasse, c'est Marinette Guédès qui est la syndic de Saint-André-des-Eaux. Et enfin, cette commission, elle a aussi un vice-président très investi qui s'appelle Jacques Cauchy, qui est vice-président de la commission syndicale et qui est également en charge de la commission travaux. Mmh. Et là, on vient de se doter, grâce à Yannick Daniel, qui est le syndic d'Herbignac, d'un monsieur finance. Alors, on va en venir. C'est parce qu'en fait, à quoi sert la commission syndicale ? Donc, c'est réglé au quotidien les conflits ou tout simplement les usages avec les différents usagers du marais.
Entre les voisins aussi.
Entre les voisins. Ouais. Mais aujourd'hui, on a une mission essentielle et fondamentale. On a besoin d'entretenir la Brière. Parce que la Brière, si elle n'est pas entretenue, elle se meurt. Et donc, pour les entretenir, on a besoin de moyens. Alors, dans un premier temps, on s'est fixé, nous, comme feuille de route, d'établir un état des lieux des marais, afin de connaître sa biodiversité et les travaux qui vont être à réaliser. Ensuite, une fois qu'on aura fait cet état des lieux, on établira un plan pluriannuel de travaux et on ira taper aux portes pour chercher du financement. Alors, quels sont les travaux ? Déjà, c'est l'entretien des canaux. Je vous ai dit qu'on avait 280 km de canaux, canaux primaires, secondaires, tertiaires, qui permettent de circuler en chalant, notamment au niveau de la Brière. L'entretien et le curage des canaux, qui permettra aussi de garder l'eau en Brière. Donc, deuxième chose, ça va être la lutte contre les espèces invasives, comme la jussie et le bacari. Et le troisième sujet, c'est l'entretien des ouvrages qui permettent de nous préserver des inondations. Mais tout ça, c'est lourd financièrement, et donc on a besoin d'aide. On travaille main dans la main avec le parc naturel régional de Brière, on travaille avec le syndicat du bassin versant du Brivet, mais on a besoin de l'aide des intercommunalités, du département, de la région et de l'État. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va interpeller le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, ancien maire d'Angers, donc, qui connaît notre territoire. Et nous aimerions vraiment organiser une table ronde en Brière avec l'ensemble des élus locaux et les acteurs concernés par l'avenir de la Brière, cette zone humide, ce patrimoine naturel qu'il nous faut préserver.
Quelle est la différence entre votre fonction, Bertrand Plouvier, et celle de président du parc de Brière ? Pour mesurer.
Alors, le parc des Brières fait
le
partie.
Parc est défini, c'est ça.
C'est un parc naturel régional qui a le statut, qui a été créé avec les parcs naturels régionaux, qui ont été créés d'ailleurs par Olivier Guichard.
Oui, mais dans votre commission, ça englobe le parc naturel régional.
Alors,
de
nous,
Brières.
La commission syndicale, on gère le marais indivis, c'est-à-dire on gère les 7000 hectares qui appartiennent aux habitants des 21 communes. On
est vraiment. Et qui appartient au parc aussi, non ?
Non, le parc n'est pas propriétaire de terrain. Le parc a une emprise territoriale, mais il n'est pas propriétaire de terrain. La commission syndicale gère les intérêts des habitants des 21 communes. Voilà. Le parc a un travail énorme sur la biodiversité, sur la mise en valeur du territoire, on travaille sur la marque parc. Moi-même, je suis élu au parc de Brière et où je participe notamment sur le plan alimentaire de territoire. On est à l'échelle du parc en train d'établir en fait tout un circuit en approvisionnement en circuit court, valorisation de différentes filières qui sont importantes pour le territoire, comme l'élevage, on en a parlé tout à l'heure, l'élevage pour la viande, mais aussi la production laitière. Qui est très riche, notamment sur le côté d'Herbignac, Saint-Liphard, le maraîchage, et enfin la quatrième filière sur laquelle on travaille, c'est la filière des produits de la mer, avec deux criers d'importance sur le territoire, que sont le croisic et la turbale.
Bertrand Plouvier, le président de la commission syndicale de la Grande Brière Motière. Vous êtes élu à la Baule, conseiller de Cap Atlantique, délégué aux économies primaires et à la transition écologique, en charge de la mise en place et du suivi du plan alimentaire de territoire. Ça me donne l'occasion de bifurquer. On passe de la Brière. C'est un peu le même sujet, finalement, parce que c'est un territoire riche en biodiversité. Sur le plan alimentaire, qu'est-ce qu'on y trouve en Brière ? Puis on va aller petit à petit vers l'alimentation.
Bah, on a la chance, comme je le disais, d'habiter un territoire magnifique avec un patrimoine naturel très riche qu'il nous faut préserver. Le maire de La Baule, Franck Louvrier, parle de La Baule en parlant de ville-jardin au bord de l'océan. On peut pas reprendre ces mots d'Olivier Guichard qui définissait ce territoire situé entre terre et mer, entre marais salants et marais de Brière, entre Loire et Vilaine. Eh bien, on va y trouver de tout. C'est-à-dire que dans la Brière, on a beaucoup d'élevage, notamment bovins, pour la qualité de sa viande, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir une viande reconnue comme de la marque Parc, la viande de Brière. Mais on a aussi beaucoup d'élevage pour la production laitière. On est des gros producteurs de lait dans le coin. On a aussi beaucoup d'usines de production de fromage sur Herbignac. Et puis, on va trouver beaucoup de maraîchage. Et une filière qu'on est en train de pousser aussi, c'est la filière des produits de la mer, comme je le disais précédemment, avec deux criées comme la Turballe et le Croisic qui se situent dans les 10 premières criées de France par leur poids, avec le tonnage qui est déplacé. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, et c'est là où il faudrait qu'on ait une réflexion collective, c'est qu'on a des tonnes de poissons qui sont débarqués à la Turballe, et beaucoup partent en camion direction Paris, direction Rungis, pour être vendus et transformés, et après elles reviennent sur notre territoire une fois transformées. Non, je pense qu'il faudra avoir une réflexion sur la transformation à l'échelle de notre territoire, déjà pour le bilan carbone, et puis aussi pour alimenter notre population et nos cantines scolaires. Parce qu'aujourd'hui, on a une volonté au niveau de Cap-Atlantique, donc des 15 communes de Cap-Atlantique, on a une volonté d'aller vers une restauration de qualité à base d'une alimentation durable, locale et de qualité.
Justement, bon, on va faire cette transition, quand vous parlez des cantines. Qu'est-ce que cela signifie, alimentation de qualité, alimentation locale ? Locale, est-ce que ça veut dire département ? Est-ce que ça veut dire région ? Ou le mieux disant possible, ça veut dire qu'on va pas... Même s'il y a des choses qui ont fait 500 km parce qu'on n'a pas le choix, on essaye de faire le mieux disant possible. Quelle est votre stratégie dans ce domaine ? Jusqu'où peut-on aller finalement ?
Alors déjà, depuis quelques années, il y a de nombreuses lois qui ont été prises, comme la loi Egalim 2, pour dire, eh bien, on doit avoir 20% de bio dans les cantines et 30% d'aliments d'origine locale. Et puis après, ben, il reste 50%. Que fait-on des 50%? On ne va pas faire 50% de n'importe quoi. Et on a une volonté justement de donner du sens à ces 50%. Après, revenons 30 secondes sur les 20% de bio. 20% de bio, il ne faut pas tomber non plus dans l'hypocrisie. Parce que le kiwi bio du Pérou, qui aura voyagé par avion, à laquelle on aura peut-être mis quelques adjonctions de produits pour lui redonner toujours cette belle petite couleur verte quand on l'ouvre, lui, il a le droit d'être dans les cantines, parce qu'il fait partie du bio. Par contre, l'œuf qui aurait été pondu directement, qu'on aurait pu presque voir sorti du cul de la poule, permettez-moi l'expression, eh bien lui, il n'a pas la labellisation bio, parce qu'on ne sait pas, alors que pourtant on connaît sa traçabilité, eh bien lui n'est pas rangé à la même échelle. Donc face à cette hypocrisie, aujourd'hui, il est important de pouvoir travailler sur une alimentation locale. Alors évidemment, les producteurs ne nous ont pas attendus. Ils n'ont pas dit, tiens, les politiques un jour se sont réveillés en disant, tiens, on va faire de l'alimentation locale. Eux ont déjà leur propre circuit de distribution. Soit ils ont de la vente directe, on a des marchés très présents et très riches à l'échelle de toutes les communes de Cap-Atlantique. Mais on a aussi des productions qui partent, certaines sur Paris, hein, puisque nos maraîchers ont besoin aussi de vendre. Donc à nous aujourd'hui d'inventer un circuit d'approvisionnement en circuit court de manière à pouvoir fournir suffisamment les cantines. Et puis quand c'est pas possible, derrière c'est de travailler aussi avec des grossistes locaux qui vont pouvoir eux aller récupérer des fruits, des légumes sur le territoire. Sur la viande, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un abattage. Et aujourd'hui,
en Brière,
on n'a pas d'abattage. Il faut aller sur des villes comme Ancenis ou descendre même sur la Vendée, ce qui en soi n'est pas trop loin. Il y a des réflexions actuellement à l'état d'un projet d'abattoir mobile qui pourrait permettre de circuler. Donc en fait aujourd'hui, il y a vraiment un gros travail qui est fait à l'échelle des trois intercos que sont la Carène, la communauté de communes de Pont-Château-Saint-Gilda et Cap-Atlantique, pour justement se dire intelligemment, eh bien, réunissons nos forces de manière à pouvoir proposer une alimentation locale, on en a parlé, durable et de qualité. Locale, il ne s'agit pas d'être plus royaliste que le roi, on n'est pas obligé de se limiter à la presqu'île. Mais si derrière on a des choux-fleurs ou des artichauts qui viennent de Bretagne, on reste sur du local, on reste sur quelque chose
de régionnel. Vous savez, moi, les produits qui viennent de Normandie, psychologiquement, je les considère comme du local.
Hein, mais oui, aussi. De toute façon, tout ce qui est à l'échelle de Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Normandie, ça reste la région ouest. Et puis, il faut le savoir que cette grande région ouest est une région de production agricole très riche. On a la chance d'avoir un bassin de consommateurs et de bassin de producteurs important. Un bassin de producteurs très varié, comme je l'ai dit, sur les différentes filières dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont amenés à se rencontrer. À nous de les faire se rencontrer, ça permettra à la fois de soutenir économiquement nos entreprises locales et permettre à la population d'avoir une alimentation locale, durable et de qualité.
Alors, comment faire connaître au grand public, par exemple, tous ces producteurs, tout ce savoir-faire et tous ces talents que nous avons dans notre région, Bertrand Plouvier, par exemple, quand vous sélectionnez un producteur pour une cantine qui va être pris à Saint-Nazaire, à Pornichet ou à La Baule, est-ce que vous allez, par exemple, vous envisagez de publier une liste de là où ce que vous choisissez? Comme ça, nous aussi, en tant que consommateurs, on peut les découvrir.
Alors, pour vous donner un exemple, la ville de La Baule, lorsque Franck Louvrier est devenu maire, il s'était engagé à récupérer la gestion de la cantine municipale de manière à ce que les enfants, mais également les agents administratifs et les seniors qui bénéficient soit du portage de repas à domicile, soit au niveau de notre maison de retraite, puissent bénéficier d'une alimentation, comme on le disait tout à l'heure, locale, durable et de qualité. Ce travail-là a fait qu'on a créé une société publique locale, une SPL qui s'appelle la SPL Restauration Presqu'île, qu'on a pu monter grâce à la ville de La Baule et Cap-Atlantique, qui est partenaire. Et derrière, aujourd'hui, on se félicite d'avoir fait ce choix pour deux raisons. La première, puisqu'on a repris le contrôle de la qualité de ce qu'on sert dans les assiettes. Et la deuxième, c'est que suite aux augmentations des coûts de l'énergie, des fluides et des matières premières, on aurait subi des augmentations énormes de la part du prestataire actuel et qui aurait rogné sur la qualité, parce qu'on n'était déjà pas satisfait de la qualité, qui aurait rogné sur la qualité et en plus aurait augmenté les prix. Donc nous là-dessus, depuis le mois de juillet, au niveau de la ville de La Baule, on produit 900 repas par jour. Alors, hors vacances scolaires, hein, bien évidemment, on produit 900 repas par jour, plus de 700 sur les scolaires, une centaine pour le portage de repas à domicile, une centaine également sur le restaurant administratif. Et la traçabilité des produits, on l'indique à l'entrée de la cantine ou sur les menus, et on va mettre de plus en plus en avant ce qui est fait maison, puisqu'en fait on a recruté un chef, on a recruté une directrice pour la SPL, on a un vrai chef de cuisine.
Mais la SPL, c'est aussi le Pouliguen, c'est aussi Guérande, vous parlez.
La SPL, c'est une société publique avec plusieurs actionnaires, et aujourd'hui elle a un premier client qui est la ville de La Baule. Mais demain, cette SPL peut avoir d'autres clients, c'est-à-dire qu'en fait, il faut concevoir la SPL comme une fusée à plusieurs étages. Et dans cet étage-là, aujourd'hui, on a un client qui est la ville de La Baule, qui a confié pour récupérer la qualité de ce qu'on sert dans les assiettes à la SPL, la gestion de sa cantine municipale. Mais demain, la SPL pourra s'ouvrir au projet des 14 autres communes de Cap-Atlantique. On a beaucoup de projets actuellement qui sont à l'échelle de réflexion, parce qu'en fait, on va trouver par exemple des communes qui travaillent avec des prestataires extérieurs, on va trouver des communes qui travaillent avec leurs propres chefs, comme la commune de Mesquer, la commune de La Turballe, qui sont pionnières en la matière.
Vous voulez dire que des petites communes, même comme Mesquer, a son propre chef?
Mesquer fait partie, c'est une cantine qui est labellisée Mon Resto Responsable. Le maire de Mesquer, Jean-Pierre Bernard, a eu cette volonté de recruter son chef de cuisine qui prépare tous les jours entre 100 et 120 repas pour les enfants des écoles.
Ça fait une très grande famille.
Ça fait une grande famille, mais surtout c'est qu'en fait c'est de qualité, puisque la quasi-totalité des enfants scolarisés vont déjeuner à la cantine de Mesquer avec un chef qui a été labellisé donc Mon Resto Responsable et qui a été reconnu et qui est très moteur à l'échelle du territoire, puisqu'ils sont intervenus plusieurs fois, comme l'équipe de La Turballe également. Donc on a cette volonté aussi d'opérer des rapprochements entre les communes qui le souhaitent sur la base du volontariat, et toujours avec animé par la même idée, c'est-à-dire de fournir à nos enfants, puisqu'en fait c'est aux enfants qu'on peut éduquer au goût, apprendre et transmettre. On est toujours dans la notion de transmission. Et en fait, c'est par les enfants qu'on peut transmettre. Et on a aussi un engagement avec les enfants qui est très fort sur l'optique d'aller vers du zéro déchet dans nos cantines. Et ça, on l'a fait. Il y a beaucoup d'écoles. Je prends l'exemple du Pouliguen, où la ville du Pouliguen a été aussi pionnière en la matière. Ils ont mis des bacs à compost avec une société qui s'appelle Compost In Situ, qui est située à Guérande. Et en fait, ces bacs à compost, les enfants, à la fin du repas, vont mettre les restes des repas qui vont être retraités. Ensuite, la société Compost In Situ récupère. Et une fois que le compost est réalisé, ce compost est redistribué aux maraîchers, puisqu'en fait, ça va faire un compost de qualité. Et on repart. Donc, on est sur un cercle vertueux.
Est-ce qu'en matière d'argent public, ça coûte plus cher? Ou peut-être même que ça peut coûter aussi moins cher que de passer par des structures comme dans les années 70 et 80 de type Elior, etc.
Alors c'est sûr que ça peut coûter plus cher sur l'achat de matières premières, puisqu'en fait, si on est tout seul, on n'a pas la puissance d'achat d'un gros groupe international
comme
ou national,
cité, ouais.
Comme vous avez cité.
Quand vous voyez les barquettes qui sortent des camions, on n'a pas très faim. Hein.
Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça contribue très largement aussi à améliorer la santé publique de nos enfants et de nos seniors et l'éducation. Donc finalement, je crois que ça n'a pas de prix.
On est gagnant.
Exactement.
Merci Bertrand Plouvier de nous avoir parlé de votre actualité, elle est riche. Bertrand Plouvier, vous venez d'être élu président de la commission syndicale de la Grande Brière Motière, on vient d'en parler, et on vient aussi parler de la restauration. Vous êtes conseiller de Cap-Atlantique, délégué aux économies primaires et à la transition écologique, en charge de la mise en place et du suivi du plan alimentaire de territoire. Merci Monsieur Plouvier d'être venu.
Merci à vous, Monsieur Rien.